Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large sur le 71e Festival International du Film de Cannes, un festival en guerre avec Pavel Pavlikovski, Sergueï Losnitsa, Antoine Desrosières qui est en train de filmer, deux formidables comédiennes, Swad Arsan et Inas Chanti, et le non moins excellent Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. La guerre est là, entend-on régulièrement dans le formidable dernier film de Jean-Luc Godard, le livre d'images découvert hier après-midi dans le Grand Théâtre Lumière. En guerre, c'est aussi le titre du nouveau film de Stéphane Brisé qui défendra les couleurs françaises dans la compétition, on le verra mardi. C'est dire si en ce début de 71e édition du grand rendez-vous annuel du cinéma au bord de la Méditerranée, la guerre semble partout. Cold War, c'est le titre du nouveau film en compétition du Polonais Pavel Pavlikovski, une guerre froide qui sert de toile de fond de 1949 à 1964 à une histoire d'amour impossible dans une époque tout aussi impossible. Nous entendrons dans un instant le cinéaste oscarisé en 2015 pour son film précédent, Ida. Un peu plus à l'est, une guerre qui ne dit pas son nom oppose elle aussi deux blocs, l'Europe et la Russie. Donbass, c'est le nom de ce territoire où des séparatistes ont autoproclamé une république populaire vécue comme une nouvelle Russie. Le cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa explore cette zone de résurgence soviétique dans une impressionnante fiction du même nom qui a ouvert la section parallèle Un certain regard. Il s'en expliquera dans une dizaine de minutes. Guerre des sexes, enfin, telle qu'elle se pratique aujourd'hui entre jeunes gens dont la compréhension du consentement diffère pour le moins selon le genre. « À genoux, les gars », proclame fièrement le nouveau long-métrage d'Antoine Desrosières. Il vient dans Plan Large en parler, accompagné de ses deux extraordinaires comédiennes, Swad Arsan et Inas Chanti, également co-scénaristes du film, en expertes de l'invention langagière qu'elles sont. En fin d'émission, Mathieu Macheret nous dira tout d'un inconnu célèbre dont la disparition dimanche dernier a endeuillé le Festival de Cannes et à qui cette 71e édition a été dédiée, Pierre Rissian, alias Mister Everywhere.
Нет, спасибо, мы не пьем.
Лето, я и шарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня сейшн блен совета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Лето. Все хулиганы три гостета. Наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Лето.
Et oui, il y a eu, c'est pour beaucoup une révélation de ce début de festival, une très active scène rock, voire carrément punk à Leningrad au début des années 80. On l'a appris donc en découvrant en compétition l'Eto, ça veut dire l'été, du cinéaste et trublion de la scène théâtrale moscovite Kirill Serebrennikov, absent de Cannes, on le sait, pour cause d'assignation à résidence dans une très bizarre affaire de détournement de subventions. De fait, Kirill Serebrennikov n'est pas dans Plan Large aujourd'hui, nous l'avions reçu la saison dernière pour son précédent film, Le Disciple, mais son film n'est pas sans lien avec celui de Pavel Pavlikovski, Cold War, également présenté en compétition à Cannes. Tous deux sont tournés en noir et blanc, tous deux montrent comment on creuse des espaces de liberté dans un système totalitaire. Ils prennent tous les deux parfois la forme d'une comédie musicale et surtout en se situant dans le passé pour parler d'aujourd'hui. Après le succès mondial de Ida, un film attaqué en Pologne aussi bien par la droite nationaliste au pouvoir que par les ex-communistes parce qu'il touchait à des tabous debout sur la vie des Juifs en Pologne, Paweł Pawlikowski s'intéresse à nouveau à l'histoire de son pays. De 1949 à 1964, comme une toile de fond d'une histoire d'amour tumultueuse, le terme de guerre froide s'applique d'ailleurs tout aussi bien à leur relation entre un pianiste, compositeur et une danseuse chanteuse, tous deux membres d'une compagnie de musique folklorique instrumentalisée à des fins de propagande par le régime. Située entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème de l'exil, inspirée par la vie de ses propres parents, dont les protagonistes reprennent les prénoms, reprenant le dispositif formel de Ida, ce noir et blanc dans le format originel du cinéma, le presque carré 1.33, Cold War fonctionne aussi donc souvent comme dans les musicals classiques. Quand les paroles et les corps sont empêchés, il va s'agir de chanter et de danser.
Ce sont deux musiciens, alors ils travaillent ensemble sur la musique. Ils ne commencent pas à chanter au milieu d'une scène, pas chanter. Mais la chaleur de la musique, la couleur de la musique, le développement de la musique, ils reflètent tout le temps leur relation. Le fait comme elle évolue, leur travail ensemble. La musique en exil, c'est une chose. La musique en Pologne, c'est une autre chose. La musique officielle dans le contexte du ensemble staliniste, c'est une chose. Et la musique de source, c'est une autre. Alors, c'est... Oui, la musique est comme... C'est le champ de bataille entre...
Alors, cette musique, il faut en dire quelques mots, parce que c'est une musique traditionnelle. On voit au début vos personnages faire un peu comme les Lomax aux États-Unis, c'est-à-dire faire un travail d'ethnomusicologue, comme le faisait Béla Bartok aussi. Et cette musique est devenue la musique officielle du régime, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez dû beaucoup voir à la télévision quand vous étiez petit.
Oui, c'est ça. S'il y avait un ensemble folklorique officiel de l'État, en fait, il y avait deux grandes, très subventionnées. Et on a promu cette musique parce que c'est la musique du peuple. C'était un peu en contraste avec la musique décadente occidentale des gens des villes, du jazz ou de musique classique contemporaine décadente. Et à l'époque, on détestait cette musique parce qu'elle était partout, non? Les chansons de Mazovches, comment ça s'appelait comme ça, c'était à la radio et on voulait écouter Rolling Stones ou Kings. Mais d'autre part, quand j'ai réécouté cette musique live dans un concert il y a 8 ans, j'adorais. Peut-être c'était un peu la nostalgie. Maintenant, j'adore Abba aussi. Mais aussi, c'était très fort. C'était très bien. Les motifs étaient très belles. C'était très bien arrangé. Et les danses étaient magnifiques. Les corps qui vibrent dans l'espace, ça te donne une émotion. Alors, j'adore cette musique, en fait. Mais j'ai fait un truc, parce que j'ai pris 3 chansons du répertoire de Mazovche. Et je les ai, parce que je voulais qu'on poursuive les trois motifs, seulement 2 sont restés, mais et j'ai appris aux musiciens folkloriques authentiques au début à chanter des chansons qu'ils chanteraient pas pour les faire authentiques. Alors le oberek que chante et joue la femme sur l'accordéon avec les pédales. Elle chantait ça jamais, en fait. Elle a appris ça pour le film, mais elle était tellement authentique, magnifique, que on achète ça comme authentique. Et aussi la petite fille qui chante, les 2 chœurs, non? Elle a appris ça à partir d'un disque. Non? Et après, avec cette musique dans l'ensemble folklorique, je prends la même musique et je la change avec mon musicien exceptionnel, Marcin Masetski. On la change dans des trucs de jazz. Oberek devient un bebop. Fou. Et la chanson de chœur, c'est une chanson en blues, jazz. Ce jeu, ça c'est un grand plaisir dans ce film. Et Johanna qui sait vraiment chanter, Elle a appris aussi à chanter un peu plus jazz. On a fait pas mal de travail de découvrir cette voix un peu plus fumée. Non, mais c'était un grand boulot avec elle. Et avec Victor, ton mec qui joue Victor, c'était un autre boulot de lui enseigner à jouer au piano. C'était quasi un an de travail pour y arriver.
Ce qui me passionne, c'est que cette musique que vous auriez pu détester, vous avez dit, vous l'avez redécouverte. Oui. Quand vous la filmez, vous n'en accentuez pas le côté kitsch qu'il pourrait y avoir, le côté un peu ringard pour la jeunesse qui la regardait à l'époque. Au contraire, vous la filmez avec beaucoup de générosité. Et quand vous transformez ces musiques en musique de jazz, c'est comme si vous faisiez une réconciliation entre ces deux musiques, c'est-à-dire la musique décadente des bourgeois et la musique du peuple.
Tout à fait, Non, non j'adore. Les chansons que j'ai choisies, j'adore. Tu sais, je les choisis très consciemment. C'est vrai qu'il y a une réconciliation de beaucoup de choses, même de nos personnages, non, à la fin. Je cherche toujours... de ne pas fonctionner en catégorie d'opposition binaire, non ? Que les gens sont mauvais ou bien, il y a toujours un mélange. Si la musique, elle peut être comme ça, mais elle peut être comme ça, elle a une profondeur comme ça et comme ça. L'important est qu'elle a une âme, non ? Alors oui, la musique, c'était une colle, comme on dit colle, pour coller... cette histoire très fracturée, très, très fragmentaire.
Vous ne jugez pas non plus le comportement des personnages selon qu'ils décident de rester ou de partir, de s'arranger ou non avec le communisme. Ce que vous montrez, c'est ce qu'un régime totalitaire et coercitif fait au corps, fait à l'intime.
Oui, c'est vrai, mais j'essaie de le montrer comme une chose. C'est pas pour dénoncer, c'est pas pour. Je le fais, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais aussi je montre Exil qui est aussi une catastrophe pour les gens parfois. Comme disait Tchekhov, non, l'art c'est la présentation précise d'un problème, non. C'est ça qu'on essaie de faire quand on fait un film, on devrait. Et aujourd'hui, dans le monde où on vit, ou surtout chez nous en Pologne, tout doit être didactique, expliqué et souligné de quel côté tu es. Ce qui se passe dans l'âme humaine, la complexité, les paradoxes, ça n'a aucune place dans cette mentalité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que, même si le film n'est pas très politique, mais le fait qu'il essaie de montrer authentiquement qu'est-ce qui se passe dans une âme, c'est déjà, dans notre contexte, un grand... une provocation, parce que maintenant avec l'histoire il faut raconter histoire héroïque polonaise ou histoire de souffrance.
Vous avez quitté la Pologne avant d'y revenir maintenant pour faire vos deux derniers films. Vous étiez adolescent, c'était au début des années 70. De quelle couleur sont vos souvenirs?
Plutôt blanc et noir, mais très riche. Ce sont les souvenirs d'une enfance. Même si mes parents se bagarraient tout le temps, mais c'est une enfance magnifique. Parce que c'était enfance, non ? Une liberté, après l'école, j'avais la liberté de Varsovie, j'avais des copains dans la vie, dans la cour. C'est un peu un paradis perdu, même si c'était communisme, si on était assez pauvres, il n'y avait pas beaucoup de choix, de choses... à consommer, mais c'était un bonheur pour un jeune.
Cold War de Pavel Pavlikovski est en compétition au Festival de Cannes. Il sortira en salle le 31 octobre. Plan large en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 71e édition du Festival International du Film. On reste à l'est, un peu plus à l'est, dans le Donbass, cette région industrielle de l'Ukraine où des séparatistes russophones, appuyés par des troupes russes pas vraiment officielles, ont instauré par la force en 2014 des républiques populaires autoproclamées. Et dans cette région, depuis, se déroule une guerre qui ne dit pas son nom et qui oppose, comme au temps de la guerre froide, deux blocs, l'Europe d'un côté, la Russie de l'autre. Le cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa, en compétition l'an dernier avec Une femme douce, également documentariste, il avait filmé en 2014 la place Maïdan. Sergueï Losnitsa, donc, imagine, pour explorer ce territoire livré à des gangsters déguisés en patriotes, une narration type marabout de ficelle où chaque séquence en entraîne une autre dans un portrait charge satirique et souvent grotesque, ce qui lui a été un peu reproché à Cannes, portrait d'une micro-société dramatiquement surréaliste et pourtant très ancrée dans le réel. Le film a fait l'ouverture mercredi de la section parallèle Un certain regard.
У меня тут немец попался. Вальтер.
Что?
That's okay, don't worry.
Куда едем?
В Донецк едем.
Зачем едете?
Мы по работе, мы журналисты.
Вальтер Михаэль.
Я.
Deutschland.
Фашик, блядь.
Ебать ту Люсю. Фашиста поймали.
No.
Я журналист. Журналист.
Окей?
Не фашист.
Гитлер капут.
Фашист плохо, очень плохо. Не хорошо.
Sergueï Losnitsa, vous avez dit, lorsque vous avez présenté votre film en ouverture d'Un certain regard, que vous aviez été inspiré par des images que vous aviez vues sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces images et où elles se retrouvent dans votre film Donbass ?
В наше время, когда существуют все эти устройства, которые могут записывать...
Nous sommes à une époque où, bien sûr, il y a des moyens techniques qui permettent donc de filmer tout et à tout moment et de transmettre cela grâce à Internet. Et moi, en 2014 et 2015, donc au début de la guerre en Ukraine, je me suis intéressée à tout cela. J'ai regardé beaucoup de ces vidéos et c'est elle qui ensuite inspiré pour ce film. Donc, à partir de ces épisodes, j'ai construit une sorte de chaîne pour qu'il y ait une structure narrative qui fonctionne. Et pratiquement tout ce qui est dans le film est fondé sur des vidéos, donc des choses qui ont existé réellement.
Pratiquement tout ce qui est dans le film, sauf peut-être la première et la dernière séquence, puisque vous dévoilez le simulacre dans cette première séquence et on verra comment elle revient à la fin. Est-ce que c'est une manière pour vous de dire que même ces images qu'on voit traîner sur Internet sont mises en scène malgré leur apparence de réalité et que de toute façon toute guerre c'est une question de mise en scène?
Значит, это сцены, которые я сам придумал.
C'est vrai, c'est moi qui ai inventé cela parce que je l'avais découvert dans beaucoup de documents qu'il y a énormément de choses qui sont présentées comme des informations et qui sont fabriquées. Et donc je voulais que ce soit clair.
Filmer en plan séquence, pour vous, est-ce que c'est justement vouloir éviter au maximum la manipulation, de montrer dans quelle durée les événements se déroulent?
Дело в том, что
les longs plans séquences et donc la durée assez importante nous permettent de comprendre la réalité de ce qui est en train de se dérouler devant nous. C'est un choix stylistique qui me paraissait indispensable pour obtenir l'effet dont je rêvais.
On a le sentiment que, comme dans votre film précédent, celui qu'on avait vu à Cannes l'an dernier, Une femme douce, vous traquez presque ce qui reste de l'homo sovieticus dans la société ex-soviétique d'aujourd'hui. Est-ce que de tourner dans le Donbass, cette région particulière, qui est presque un concentré de tout ce que vous pouvez rechercher, était le lieu idéal pour traquer cet homo sovieticus survivant?
Дело в том, что homo sovieticus никуда не исчезал.
En fait, l'homo sovieticus n'a jamais disparu. Simplement, certaines particularités ne sont plus présentes. Il y a deux choses qui ont disparu. Il y a d'abord le sentiment de honte, qui est un sentiment qui pouvait exister en Union soviétique, et aussi l'impression qu'il y avait quelque chose qui pouvait être correct et des choses qui étaient incorrectes. Maintenant, la notion d'incorrect n'existe plus.
Отпала мораль.
Je pense que également la morale a disparu. Il y avait une certaine morale quand même pour une certaine catégorie de la population soviétique. Et actuellement, on a l'impression vraiment que la morale a disparu, en particulier au niveau du pouvoir. Par exemple, à l'époque soviétique, les diplomates ne se permettaient pas ce qu'ils se permettent, que se permettent aujourd'hui les diplomates russes. J'ai l'impression qu'une barbarie, que rien ne limite, s'est emparée de tout cet espace post-soviétique. Une sorte de retour au Moyen-Âge qui me paraît dangereux.
Alors, je suppose que pour un spectateur ukrainien, tout ce qu'il voit à l'écran est très clair. Pour un spectateur occidental, on est parfois un peu perdu entre les uniformes, qui est de quel côté ou non de la frontière. Et je me demande si ça ne vous plaît pas, finalement, cette confusion qui peut s'emparer de certains spectateurs, parce que c'est une manière de montrer aussi ce qu'est une guerre civile, et que finalement, c'est très arbitraire, ce qui fait que quelqu'un va être d'un côté ou de l'autre.
À l'époque soviétique, il y avait deux écoles de traduction pour la poésie. Il y avait certains traducteurs qui estimaient que lorsqu'ils traduisaient, ils devaient simplement essayer de rendre avec des vers aussi à peu près le même rythme et les rimes, précisément ce qui était écrit par le poète étranger. Alors que, en particulier lorsque c'était des grands poètes qui traduisaient, ils estimaient qu'ils pouvaient s'approprier en fait, un poème et refaire quelque chose sur un sujet donné, mais en s'éloignant éventuellement de ce que l'auteur avait voulu lui écrire. Compte tenu de tout cela, que si dans mes films j'ajoute des informations pour que les choses soient vraiment claires, pour que le spectateur occidental le comprenne vraiment, je risque de perdre le spectateur russophone originaire de cet espace post-soviétique qui, pour lequel tout est limpide. Cela dit, dans chaque scène, dans chaque épisode qui est raconté, il y a au début des indices pour voir où cela se passe et donc auprès de qui on se trouve.
Donc,
je ne peux plus rien ajouter à ce film, mais je pense que l'essentiel est quand même clair. On montre la corruption, on montre les vols, on montre les humiliations, on montre la laideur, on montre la lâcheté, la médiocrité profonde. J'ai choisi l'Ukraine parce que c'est là que se sont déroulés tous ces événements et c'est là que ça se passe. Mais cela pourrait se produire dans d'autres territoires de ce même espace. Finalement, peu importe si ça se déroule, si tel ou tel épisode se déroule du côté des séparatistes ou des Ukrainiens, parce que il y a des choses qui sont là à montrer. Mais hier, j'ai croisé un cinéaste du Kazakhstan et qui m'a dit qu'au Kazakhstan, on voit à peu près les mêmes genres de choses. Donc je pense que c'est une maladie commune à l'ensemble de l'espace post-soviétique.
Ты фашистов видел? Так вот, они бомбят.
Они бомбят, ты понимаешь?
Правду напиши, наших людей
бомбят. Журналист, правду напиши.
Все, напиши, что видел. Правду напиши.
Verstehst du? Пошли.
Il vaut mieux pas être journaliste allemand au Donbass, on vous traite facilement de fasciste. Merci beaucoup à Odile Melnik pour la traduction des propos de Sergueï Losnitsa. Donbass sortira en salle le 5 septembre en France. Je ne suis pas totalement certain qu'on le verra sur les écrans russes. Un plan large est en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 71e édition du Festival International du Film. Dans ce temple du cinéma, cette année, on en entend de belles.
Moi, j'ai besoin de personne, j'ai juste besoin de mon grec. Et ça sert à rien que tu m'appâtes avec un grec, ok? Et déjà, tu vas aller chez eux, pourquoi faire? Hein, qui dit qu'on va pas croiser des gens qu'on connaît? Tu crois que les gens de notre quartier, ils restent que dans notre quartier?
Mais qui me dit que moi, je vais être aussi contente que toi? Qui me dit que Salim, il va faire la même chose que Majid?
Salim, il va tout apprendre de Majid, il va tout lui enseigner, tout. T'inquiète pas, tu peux lui faire confiance. Et si moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi, t'as le droit de le faire. T'inquiète pas, on fait que du Allah.
Tu fais quoi avec lui?
Bon, l'important, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce que ça me fait.
Et ça te fait quoi?
Oh... Oh. Oh, God.
Oh, je sens rien, gros.
Yeah.
Tu veux de l'eau, mec?
Oh, God. Ah. Ah, yes.
Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Attends.
Yes. Yes. Yes.
Mais arrête de crier.
Yes. Ah.
Tais-toi, mec. Ça a l'air bien, hein? Mais est-ce que je serais obligée de parler anglais?
Et dans cette émission, vous allez pouvoir parler français. Swadharsan, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Inès Chantilly.
Bonjour.
Ce sont vos voix qu'on a entendues. Alors les auditeurs de France Culture les connaissent un peu, ces voix, pour peu qu'ils soient tombés sur une fiction de France Culture. C'était il y a pile 2 ans, ça s'appelait 0615. Et puis surtout, les auditeurs cinéphiles de Plan Large vous ont déjà vu et entendu. C'était dans Aramiste d'Antoine Desrosières, qui est également avec nous aujourd'hui. Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Et je vous voyais tout à l'heure, alors vous, ça vous plaisait beaucoup Antoine, mais... Swadharsan et Inès Chantilly, vous vous bouchiez les oreilles ou vous faisiez les grands yeux en vous réécoutant?
C'est insupportable.
J'aime pas trop m'entendre faire des bruits comme ça à la radio.
Puis même pour le fait de se voir sur un écran et tout, ça reste assez... Je sais pas, je déteste. Je ferme les yeux ou je me bouche les oreilles du coup.
Alors, vous êtes les deux seules spectatrices sans doute à qui ça arrive, parce que nous on est ravis de vous voir et de vous entendre, d'autant que vous êtes filmée très frontalement par Antoine Desrosières, c'était déjà le cas dans Aramiste. Une des beautés de ce film et une des choses qui nous réjouit, c'est que vous filmez de la langue, vous filmez de l'invention langagière et vous filmez de la presque une folie du langage qui va jusqu'au bout, et c'est souvent déjà par là qu'arrive le rire, Antoine Desrosières.
Oui, en fait c'est vrai que en l'occurrence j'aime la langue française et j'aime cette langue française et j'aime les langues françaises, et il y a eu des cinéastes avant moi qui aimaient la langue française, je sais pas, Pagnol, Guitry, et qui aimaient et qui filmaient d'ailleurs tout aussi frontal. Alors évidemment j'arrive à la cheville, hein, parce que à chaque fois qu'on cite des noms tout de suite c'est délicat.
Romain et Renoir vont arriver après, donc
voilà ce que je veux dire par là c'est que c'est pas une sous-langue que je donne à entendre, c'est une belle langue, et que tout le travail qu'on fait avec les scénaristes et actrices, Inès, Swad et les autres qui sont sur le film, c'est un travail de... Moi j'appelle ça un peu d'accordéon, c'est-à-dire qu'on dilate, on dilate, on dilate, on dilate, pour ensuite resserrer, pour sortir d'une certaine façon l'essentiel, ce sont les huiles, et je fais des huiles essentielles, quoi. Voilà, j'essaye.
C'est ça mon Antoine Desrosières. Mais c'est vrai que c'est ce à quoi vous arrivez, parce que, alors, puisqu'on est dans les noms, vous faites un peu comme ce que faisait Jacques Rivette, on en a parlé récemment dans Plan Large, c'est-à-dire que vos comédiennes sont vos co-scénaristes, vous faites des séances d'improvisation à partir d'une trame, à partir de laquelle vous allez écrire des dialogues qui sont ensuite redits et là encore j'imagine improvisés. Est-ce que comment ça se passe, je vais demander aux co-scénaristes, Swadharsan et Inès Chantilly, comment se passent ces séances de création scénaristique?
C'est simple, hein.
Voilà, on se passe la parole.
Alors, c'est sur plusieurs étapes. En gros, on a eu... en fait, on avait un scénario de base qui faisait 100 pages, qu'on a développé tous ensemble, du coup, et on l'a développé avec de l'improvisation. En gros, on avait les situations, et sur un mois et demi environ, ou 2 mois à peu près, on nous donnait la situation, on partait sur une heure d'improvisation, et là vous avez Antoine Desrosières et Anne-Sophie Nanki qui filmaient, et en même temps
votre assistante,
exactement,
co-scénariste du scénario,
que ce soit dit,
et en fait ils avaient aussi leur ordinateur et ils écrivaient dès qu'ils trouvaient quelque chose de pertinent, et puis ils revisionnaient les vidéos pour aussi reprendre ce qui manque, enfin ce qu'ils avaient oublié d'écrire. Et à partir de là, on a développé le scénario jusqu'à 400 pages. Et ensuite, on a eu un mois et demi, presque 2 mois de répétition, où on apprenait vraiment les textes, on les jouait, etc., pour pouvoir s'en imprégner. Parce qu'on a eu 18 jours de tournage pour 400 pages de scénario.
Alors voilà. Ça, la méthode de tournage, on va y venir tout à l'heure, mais les sujets ne sont pas anodins. Aramis, on montrait qu'on pouvait rire avec les sujets qui font très très peur à toute une partie de la société française, c'est-à-dire la banlieue, les populations d'origines immigrées, le voile sur la tête des filles, et alors là, on en riait énormément. Ici, on va rire avec une situation qui est aussi très ancrée dans le présent et tout aussi délicate, qui est le harcèlement sexuel, le viol autre chantage à la sextape, hein, il va être question de tout ça. Alors comment est-ce que, à partir des situations que vous donne Antoine Desrosières, on arrive à produire ce langage qui, à la fois, nous fait beaucoup rire, mais nous amène à une compréhension, je dirais presque supérieure de ces enjeux-là, parce que ça nous met aussi à la place des personnages, y compris les personnages masculins. Alors je crois que dans les improvisations, vous prenez aussi le rôle des parents, le rôle des hommes.
Hein, oui, c'est vrai qu'on a fait... Antoine nous faisait jouer nos rôles, donc on improvisait par rapport à nos rôles. Et ensuite, on a tourné... moi, j'ai joué le rôle de ma sœur, de mon père, de ma mère, voilà, de tout le monde, en fait. Et mais pour répondre à votre question, ça venait très naturellement, je pense. En fait, on était juste, pendant toutes les répétitions et le tournage aussi après, on était juste nos personnages et voilà, on était dedans. Et on se forçait pas à essayer de trouver le langage à nos personnages, mais... Juste, on les faisait parler sans se poser de questions.
Et la raison pour laquelle vous faites ça, Antoine Desrosières, c'est votre côté renoirien, il faut réussir à se mettre à la place de tous les personnages.
Mais c'est ça, hein, il disait que tout le monde a ses raisons, c'est la fameuse phrase renoirienne, et c'est vrai que ça me plaît que vous ayez noté que même les méchants ont leurs raisons, hein, comme effectivement Renoir le défend. Et d'ailleurs, les entre guillemets méchants de mon film, je les présente d'une certaine façon plutôt comme quasiment victimes d'un conditionnement qui les amène à ne pas comprendre la normalité de ce qui pour eux est tout à fait normal, et j'essaye de montrer le mécanisme qui les amène à d'une idée à l'autre à se retrouver à commettre le pire en ne voyant pas le problème. Mais je ne bazarde pas, ce sont des méchants, en fait je les aime tout simplement. Mais cela dit, il y a une chose très importante que vous avez dite et qui est importante de signaler, c'est que en jouant tous les personnages et en écrivant à l'oral, mais en écrivant, en inventant tous les personnages, les Inas et Swad prouvent qu'elles font un vrai travail de construction. C'est-à-dire que ce ne sont pas des natures. Souvent, quand on voit des nouveaux jeunes visages à l'écran, on a plus ou moins l'impression qu'elles jouent leur propre rôle, d'autant que on les connaît pas, etc., etc. Non, Inas et Swad, elles construisent, elles ont un regard, un recul, et elles sont tous les personnages, ce sont des vrais grandes auteurs et de vraies grandes actrices. Ce sont des grandes professionnelles. Je supporte pas depuis qu'on me dit « alors vous travaillez avec des acteurs amateurs ». Ce sont des grandes professionnelles. Elles sont capables d'apprendre 20 pages de texte et soit d'elles se taper des fois 3 scènes de 20 pages dans la journée, c'est 60 pages de texte. Et elles soufflaient ses répliques à ses partenaires. Voilà.
Douleur.
Ma parole au sociétaire, c'est dégueulasse ce qu'elle fait là.
C'est bon, c'est dégueulasse. Bon, on a plus le droit de monter tranquillement.
Et la féminité, tu connais pas
ça? Y'a pas de féminité, lâche-moi.
Tais-toi.
Ah, mais sérieux, si Salim Miro, t'es qu'est-ce marotté comme ça, c'est mort.
Mais n'importe quoi.
Salim.
Ouais, j'arrive. Et en plus, j'espère que tu lui as pas dit de conneries sur Yasmina. Hein. Bon, sinon.
Ouais,
ça va?
Gars, ça va quoi?
Ça va, tu vas bien?
Ouais, tranquille. Hein.
Ah ouais, frère.
Mais vas-y, frère, ça fait plaisir. Hein.
On a oublié le ketchup. Moi, je mangeais les frites.
La viande, elle est pas mal, hein. Vous avez changé de bouchon ou quoi?
C'est ça, on prend toujours les chats du quartier. C'est bon, c'était pour rigoler, frère.
Eh, d'ailleurs, en parlant de chien et de chat, le chien de Jean-Marie Le Pen, il aurait violé le chat de sa fille Marine.
Ils sont partout, les gars. Même les animaux, ils sont gays maintenant. On va où? Où est-ce qu'on va? Eh, c'est ton chat. Il baisse ton chien, tu fais quoi?
Eh hey gros, moi je nique la mère aux deux, frère, et je termine les deux.
Comment ça tu termines les deux? Il y a écrit le chien, il viole le chat c'est la victime dans l'histoire, pourquoi tu le termines?
Ah, qui dit que c'est la victime?
Ah ouais, frère.
Ça se peut, le chat, il a mis une tenue provocatrice.
C'est possible.
En mode il s'est léché les poils, ils étaient luisants, tu vois. Il s'est mis à gambader dans la rue, bim, il a soulevé sa queue.
Donc ça, ça t'excite?
Ça peut exciter un chien.
Bah ouais, grave.
Bah moi, t'as vu qu'elle m'excite pas.
C'est comme si tu disais la boutique est ouverte.
Donc les meufs violées, c'est de leur faute maintenant. Non, pédé ou pas, il n'était pas d'accord, donc non, c'est un viol. Levez la main ceux qui pensent que c'est pire d'être un chien violeur ou un chien gay.
Ouais, un chien gay, hein.
PD, c'est plus grave.
PD, c'est plus grave.
C'est chaud, ouais.
C'est grave. Tu vois, genre, un violeur, tu peux soigner.
Tu coupes les couilles, ok.
Mais un PD, tu peux
pas soigner. Alors, qu'est-ce qui est pire, être PD ou être zoophile?
Un PD, ça reste un PD, même si tu laves à l'eau de Javel.
Waouh, voilà.
Un mec qui est capable de niquer un autre mec, elle est capable de tout niquer après. Que ce soit des animaux, des véhicules.
Tiens,
on vote. Tiens, ton vote.
Tu préfères quoi? Que ton père. Ton papa. Il se fasse sucer. Par un trave.
Oh là là. Oh la dinguerie. Starfallah.
Ou alors que ta petite sœur, elle se fasse démonter par un pédophile.
Attends, mais je l'entendais pas là.
C'est la même chose. Choisis
ton père ou ta sœur.
D'accord, je préfère mon père se faire sucer par un
trap. Voilà, donc c'est plus grave d'être violable que d'être PD. C'est bon. Ça va?
Voilà, on parlait de personnages conditionnés d'une certaine façon, mais quand on pousse le paradoxe un peu loin, finalement, on peut réfléchir et reconsidérer sa position. Alors voilà une langue, on le disait tout à l'heure, qu'on n'entend pas beaucoup, en général, dans les films, et c'est un rire qui reste dérangeant, puisque alors que le film s'adresse en priorité à des personnages qui auraient l'âge de ceux qu'on voit dans le film, et même un peu plus jeunes, parce que ça leur permettrait de réfléchir un peu à ce que c'est que le consentement, à ce que c'est que qu'une relation sexuelle véritablement libre et consentie. Le film s'est retrouvé interdit au moins de 16 ans. Hein. Alors il y a eu un appel qui est en cours, donc on va pas aller trop loin, mais je voudrais quand même citer l'avis de la commission de classification, qui parle d'une accumulation de stéréotypes, de la banalisation de comportements problématiques qui ne sont pas adaptés à un public jeune et ou préadolescent, susceptible d'être heurté et de se méprendre sur ces situations. Alors, comme vous êtes un cinéaste inventif, vous avez tourné ce film sans chaîne de télévision, vous avez décidé, je crois d'ailleurs que le film, dans sa conception initiale, on parlait d'un scénario de 400 pages tout à l'heure, devait durer quasiment 3 heures.
Beaucoup plus.
Et là, celui qui va sortir en salle dure 1h38, mais il y a une version alternative, si j'ai bien compris, qui va être un feuilleton YouTube.
Alors, un feuilleton qui ira quelque part sur Internet, tout ça est encore un peu en discussion,
J'ai cité.
Vous avez raison. Mais l'essentiel, c'est surtout effectivement le pari très excitant qu'il y a à proposer un 30 fois 10 minutes. A priori, on va le sortir en parallèle de la sortie salle pendant 30 semaines, donc jusqu'en décembre. Qui est un pari tout à fait différent par rapport au film, puisque chaque scène est finalement une histoire en elle-même, ce que le film ne montre pas forcément. Dans le film, il y a que la partie qui fait avancer l'histoire du film qui est dedans. Et dans chaque scène, on a essayé d'aller, comme ce qu'on aperçoit dans le bout que vous avez passé, au bout à chaque fois de la logique, chercher le point de rupture de la logique, le point d'absurde de la logique. Hein, je crois qu'on comprend bien notre démarche avec cet extrait, qui est vraiment de retourner les situations comme des crêpes, de dire le non-dit. Quelque part, là, on pousse le non-dit jusqu'à l'entendre et jusqu'à faire affleurer son absurdité, quoi. Et il y a une chose qui me semble, donc je vais aller au bout de la démarche internet, c'est très excitant puisque notre démarche c'est de faire travailler sur la question de la compréhension de la notion de consentement par les adolescents, ceux de 12-16 ans pour lesquels cette question est complètement en construction, donc sur lequel il y a encore un enjeu, sur lequel il y a encore à sauver, sur lequel il y a encore à faire, un enjeu qui est essentiel aujourd'hui.
D'autant qu'ils sont habités par des représentations sexuelles qui sont celles de la pornographie accessible partout. Voilà, on l'entendait dans le premier extrait, avec cette idée qu'il faut manifester exagérément sa joie, comme on peut l'entendre aussi dans des...
Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Voilà. Là, c'était un gentil hommage à un vieux classique de la comédie romantique qui ne vous a pas échappé, hein, quand Harry rencontre Sally. Néanmoins, par rapport à cette question... nous, on a choisi la comédie pour parler d'un sujet grave. Bon, d'abord parce que c'est un peu ma nature, j'avoue. Mais aussi parce que notre désir, c'est aussi de nous adresser aux petits cons. C'est-à-dire ceux qui sont capables de commettre les actes qu'on décrit dans le film. Pour voir un drame, ils viendraient pas au cinéma. Déjà, pour les amener au cinéma, c'est compliqué. Mais pour voir une comédie, il y a peut-être une petite chance de les amener au cinéma. Et l'idée, c'est de créer une faille dans leur crâne et dans leur cerveau et de s'infiltrer à l'intérieur par le rire, pour ensuite aller planter la petite graine du doute par rapport à la souffrance qui va être causée et qui, je pense, est tout à fait claire dans le film. On voit que cette fille souffre. Et donc, c'est presque une démarche stratégique, voire sociale, voire politique, enfin tout ce que vous voudrez, qui est la raison d'être de ce film, et peut-être un petit peu la raison d'être du cinéma. Quand une décision provisoire de la commission de classification consiste à estimer que
la comédie rend dangereuse la représentation du viol, parce que pourrait faire perdre la notion de gravité, grosso modo, c'est ça qui est expliqué avec les mots plus techniques que vous avez cités, j'ai l'impression qu'on est dans un profond malentendu qui m'inquiète, mais je suis confiant dans les institutions de mon pays et je pense que la sagesse va reprendre ses droits. Mais pour aller au bout, pardon, je suis long, Antoine, mais pour aller au bout,
avec plaisir, Antoine.
Internet, c'est formidable, hein, c'est Dupont et Dupont. Hein. Internet, c'est quand même là où sont les adolescents, et donc c'est très intéressant de présenter un autre produit à destination des adolescents, pour faire ce travail que je vous ai décrit directement auprès d'eux sur un support où, ça ne vous a pas échappé, les interdictions n'existent pas.
Et c'est aussi, quand on lit bien cet avis de la commission de classification des films, une façon de prendre sans doute les adolescents pour plus bêtes qu'ils ne le sont, Sodarsan Inaschanti.
Enfin, moi, je pense que c'est un peu ridicule de penser que l'adolescent ne va pas être capable de comprendre ce qu'il voit au cinéma. Mais alors attention, évidemment, si ça lui arrive dans la vie, c'est intelligent pour savoir que ça se fait pas. Moi, je pense que c'est totalement absurde.
C'est plutôt le contraire, d'ailleurs.
Oui, s'il est capable. C'est en lui montrant au cinéma qu'il peut peut-être se dire et comprendre que c'est grave.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut apporter un débat, en fait. Ça peut apporter des questions sur lesquelles, s'ils y vont entre potes, ils peuvent se dire « Ah ok, d'accord, mais toi tu crois que... » Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'ils peuvent aller jusqu'au débat et se dire « D'accord, en fait, c'est grave et faudrait pas faire comme ils font dans le film. » Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre, ça fait poser des questions, ça ouvre au débat, et c'est ça qui est cool.
Et vous êtes prêt à accompagner le film, oui. Comme vous l'avez fait pour Aramis ?
Encore plus prête, parce que autant le message d'Aramis était très important, en tout cas pour moi, mais là, celui d'À genoux les gars, c'est à mon sens, encore plus important. Et du coup, en tout cas, pour ma part, je suis prête à l'accompagner où il faudra et quand il faudra.
On donnera les rendez-vous
et de travailler auprès des scolaires. Je reçois de nombreuses lettres de profs qui m'expliquent qu'ils veulent se servir de ce film comme d'outil pour créer des débats. Ils me disent même qu'il leur manque des outils pour créer des débats sur ce sujet, sur le consentement, et de libérer la parole des élèves. Et nous, profs qui nous écoutez, sachez que nous sommes là, nous sommes faciles à joindre, nous sommes faciles à atteindre, et que nous demandons que ça, accompagner le film, aller à la rencontre de vos élèves et de vous. C'est à ça que servent les films. C'est de rencontrer des gens, c'est de créer des discussions, c'est qu'ils servent de plateforme et c'est qu'ils jouent leur rôle dans la société.
Eh bien, écrivez à l'émission Plan Large, nous ferons suivre.
Les garçons sont des brigands, pauvres filles, se moquant des sentiments. Moquez-vous à votre tour de leurs vétilles, riez de leur prétendu amour, riez de leurs serments. Car le jour viendra où nous, pauvres filles, nous aurons raison de vous. Vous menant par le bout du nez et que ça file, fini de vous pavaner. Le sexe fausse à nous. Et maintenant, messieurs, fini de rire, car la vengeance a sonné. Fini de nous tromper, c'est à nous de partir pour des pays éloignés en vous laissant travailler. Fini le temps d'un pouvoir tyrannique que vous avez usurpé. Nous allons de façon méthodique rétablir l'égalité et punir vos infidélités. Mais personne ne répond à mon appel. Elles veulent accepter le fardeau de cette envahissante tutelle. Le cas est désespéré. J'abandonne la société en disant: les garçons sont des brigands, pauvres filles, sachez-le dès maintenant. Si vous entrez dans leur jeu, niaise fille, vous verrez leur prétendu amour vous fera esclave pour toujours, vous fera esclave sans recours.
Qu'on le sache, les garçons sont des brigands. C'est une des chansons yéyé pré-féministes qu'on entend régulièrement dans votre film, Antoine Desrosières. Et les auditeurs les plus attentifs, habitués de France Culture, auront peut-être reconnu la voix de la chanteuse. En 1964, elle s'appelait Marie-Hélène. Premier indice, devenue productrice sur France Culture, elle a repris son nom complet. Et oui, il s'agissait bien de Marie-Hélène Fraissé. On la salue à genoux, les gars. Interdit seulement, on l'espère, donc au moins de 12 ans, sortira en salle.
Je l'invite à découvrir mon film.
Le 20 juin. Merci beaucoup, Soit d'Arsan et Inès Chantilly. On leur souhaite une bonne fin de festival dans ce marathon cannois épuisant. Antoine Desrosières, vous restez avec nous. Mathieu Macheret va nous parler de quelqu'un qui était très cher au Festival de Cannes, au plan large. Je le rappelle, est aujourd'hui en direct. Il était très cher aux cinéphiles en général et à vous, Antoine Desrosières, en particulier.
How come you don't have any beer? And what is this, a shrunken head? Who was that guy? Does he live here?
Hey, look, I
hope you like steak. I thought you looked like the steak and potatoes.
Hey, hang on.
Said to myself, a nice green salad with roquefort and tomatoes. Baked potato with... Stop.
What's going on here?
Oh, don't send me away.
No, I want to ask you a question.
I just wanted to surprise you.
Surprise? What happens if he and I had been talking business? Or maybe I have female company or something and you come traipsing in with an armload of groceries. That would be some surprise.
I'm sorry. Why don't you keep that stuff? I think I've lost my appetite.
Hey, hang on a minute. I'm just trying to tell you something, that's all.
I don't understand. Should I go? Should I stay? What do you want?
I'm trying to tell you that there's a telephone. And I pick it up and I dial it. You answer and I say, hey, what are you doing?
I say I'll be right over.
Fine. Next time, why don't we do it that way?
Okay. Any way you like. Next time. How do you like your steak?
Extremely rare.
On est comme Clint Eastwood, on l'aime bien bleu son steak. Clint Eastwood, cinéaste, lui devait énormément, c'est lui qui l'avait surnommé Mr. Everywhere, Monsieur Partout, mais il lui aura gardé jusqu'au bout une amitié indéfectible. Il avait été attaché de presse, distributeur, conseiller artistique, producteur et même réalisateur. Il est mort dimanche dernier à l'âge de 81 ans, ce qui a provoqué un grand émoi dans le monde du cinéma, au point que cette 71e édition du Festival de Cannes lui est dédiée. Qui dans le grand public connaît Pierre Rissian, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Pierre Rissian, découvreur de talent, défricheur de cinématographie inexplorée, homme de l'ombre et éminence grise tel qu'il était, il est pourtant derrière bon nombre de palmes d'or, par exemple. Mathieu Macheret.
Oui, c'était un conseiller de l'ombre, Pierre Rissian, qui ourdissait des conspirations, mais des conspirations d'utilité publique pour propulser, mettre en lumière les cinéastes qu'il jugeait importants, qu'il avait découvert ici ou là, à la discrétion de tel ou tel festival aux quatre coins du monde, puisqu'il voyageait aussi beaucoup. Pierre Rissian, c'était un découvreur, comme vous l'avez dit, Antoine, mais surtout un regardeur, quelqu'un qui avait le regard sûr, exercé, le goût ferme, sculpté dans sa connaissance encyclopédique de l'histoire du cinéma et de toutes ses tendances. Mais c'était aussi une voix unanimement respectée, capable de souffler aux oreilles des plus hautes autorités festivalières, ses avis, ses conseils. Et c'est bien simple, il était difficile, voire impossible, de rencontrer un cinéphile qui aurait connu autant de films que lui, qui aurait suivi autant de cinéastes en même temps et qui aurait été aussi attentif envers les jeunes pousses et les premiers films que Pierre Rissian, particulièrement en Asie, dont il maîtrisait les cinématographies diverses sur le bout des doigts. C'est un homme dont l'œuvre reste impalpable, incommensurable, écrite dans les plis et les revers de la chronique officielle. Rissian était une figure dérobée mais décisive du Festival de Cannes, dont il a écrit comme une sorte de contre-histoire. On lui doit des découvertes innombrables, celles de Lino Broca, le Fassbinder philippin, le virevoltant Touch of Zen de King Hu, cinéaste d'origine hongkongaise, exilé à Taïwan. Il fera admettre Mean Streets de Martin Scorsese en 74 à la quinzaine. Clint Eastwood, dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, lui doit sa reconnaissance artistique, bien sûr, puisque c'est Pierre Rissian qui fit venir Pale Rider à Cannes en 1975. 85, pardon, merci Antoine. L'épouvantail de Jerry Schatzberg, la leçon de piano de Jane Campion vont recevoir tous deux la Palme d'Or, c'est grâce à lui. Edward Yang avec Confusion chez Confucius, David Lynch, etc. Puis Pierre Rissian a aussi été entremetteur au sein de la société CB2000 qui était versée dans le cinéma d'auteurs prestigieux. Alors il y a derrière ça Twin Peaks, Underground d'Emir Kusturica, Secret et mensonge de Mike Lee, Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami. C'est complètement complètement incroyable. On peut même pousser jusqu'au Réservoir Dogs de Quentin Tarantino, voire même le domaine du Sri Lankais Lester James Perry, décédé il y a peu de temps. Enfin, vous voyez que le leg est absolument gigantesque. Rissian a eu autant de vies possibles que on pourrait même pas les compter en nombre de chats, pour ainsi dire, hein, les chats qui ont 9 vies. Programmateur du cinéma MacMahon à l'âge de 17 ans, qui a été le temple d'une chapelle cinéphile appelée à devenir les MacMahoniens, voilà. Il a été
avec leur carré d'as de cinéaste borgne.
Voilà, exactement. Il a été l'assistant de Jean-Luc Godard sur À bout de souffle. Enfin, voilà, des tonnes de métiers. Camarade de Bertrand Tavernier en tant que qu'attaché presse. Mais il a aussi, et surtout, enfin, en tout cas, à un moment de sa carrière, réalisé des films. Il a été cinéaste. Et c'est aussi ça qui nous intéresse chez Pierre Rissian.
Tout s'est passé comme si dans ma dérive, je m'étais laissé choisir par Manille. Manille, Manila, Manila. Cette manie que j'ai des Réla. En quête de quoi? Et pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? J'aurais dû préférer Jakarta, plus près de l'équateur, davantage au centre des réseaux. Manille qui n'a pas de centre est faite pour celui qui n'a pas de centre. Manille, sud-est asiatique hétéroclite, fait pour accueillir les rangs. Manille pittoresque, faite pour celui que le pittoresque peut distraire de lui. Manille me tient. Je ne tiens pas Manille. Des jours, des nuits, qui finissent par faire des mois, des années. Voilà bientôt 2 ans, et je ne suis pas encore reparti.
Ici, dans un plein élan, la peinture jaillit des murs. Un carnaval. Triste aujourd'hui.
Voilà, c'était Cinq et la peau, un extrait de du deuxième long métrage de Pierre Rissian qui est cette année présenté en version restaurée à Cannes Classique. Hein. C'est une section qui voilà présente des restaurations de films issus de l'histoire du cinéma. Et Cinq et la peau est un film tout à fait étonnant, une dérive érotique et rêveuse dans Manille, en même temps qu'un portrait de la ville traversé par un personnage d'Européen errant, hein, auquel l'acteur Féodor Atkin prête ses traits. Et quand on connaît les goûts de Pierre Rissian, le type de cinéma qu'il avait défendu dans sa jeunesse macmahonienne.
Un cinéma très viril en général.
Ah, oui, avec le fameux carré d'as que vous évoquiez Antoine. Un cinéma américain sec, sans fioritures, art invisible, entièrement voué à la limpidité de l'action. On ne peut être que surpris par la veine littéraire de Cinq et la peau, veine mentale d'un film qui lorne plus du côté, je m'avance sur les références, mais disons, de Marguerite Duras, de l'Alain René d'Hiroshima Mon Amour, ou de Marianne Barr, du Chris Marker monteur, on pense beaucoup à Sans Soleil, puisque même ici, c'est une même poétesse que dans Sans Soleil, avec sa liste des choses qui font battre le cœur, hein, elle est évoquée aussi dans Cinq et la peau, voire même peut-être d'Alain Robbe-Grillet, pour le caractère érotique du film. Alors, on lorgne plus vers cette catégorie-là que vers une quelconque parenté hollywoodienne. C'est un film surtout de montage, Cinq et la peau, hein, qui est constitué presque intégralement de fragments, d'éclats, de morceaux, de trajectoires éparpillées, de gestes prélevés, de télescopage, de flash par moment, un film musical en fait, hein. C'est la musicalité du montage qui prévaut, incroyablement précis, admirablement syncopé, qui brouille et rend sensible en même temps un vague récit de déambulation sexuelle et de spleen existentiel, donc dans les rues de Manille. Vapeur, divagation, citation poétique, le film met aussi en scène un concert de voix off lyrique et incantatoire, et puis on y trouve... Rissian est évidemment un incorrigible cinéphile, puisqu'il y a par moments des encarts impromptus sur Raoul Walsh, Fritz Lang, voire Lino Broca. Il y a une rencontre dans le film avec Lino Broca. Hein, Cinq et la peau est ainsi un assez curieux précipité, une mosaïque d'images, de sons, d'impressions, de sensations qui est construit, on pourrait le dire, comme une vapeur libidinale qui gonfle dans le frottement même des images. Hein, il s'y joue une conception assez unique et tout à fait passionnante du cinéma. Le film, tel que le conçoit Pierre Rissian, ne se trouve jamais exactement dans ce qu'on voit au moment où on le voit, ni dans ce qu'on entend positivement, mais résulte d'une forme plastique, dans l'espace, dans le temps, que constitue un peu comme une cathédrale, je mets ça entre guillemets, toutes les images assemblées. Le film se situe toujours dans l'intervalle, dans l'interstice, dans le trou entre les images, et l'on ne peut que saluer le grand Pierre Rissian pour nous l'avoir ainsi magnifiquement rappelé.
Merci Mathieu Macheret, Pierre Rissian, Antoine Desrosières, vous l'avez
l'avez connu comme beaucoup de personnes dans le cinéma, mais vous de manière très proche. Et il n'aidait pas que les Lino Broca, Esther James Perry ou Cyrus Sienne, il était aussi pour quelque chose dans votre film.
Là. Il était surtout encore là. Vous connaissez la blague sur Pierre Hisson, c'est Chaplin lui doit tout.
Oui, on disait ça pour Ford, Ford lui doit tout.
Donc, mais bon, écoutez, je dois commencer. L'histoire que je vais raconter est très émouvante, mais aussi, il y a un préalable que je dois faire, c'est que elle n'a servi strictement à rien pour moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré tous les membres de sélection grâce auxquels notre film est ici. Ils avaient choisi le film à l'unanimité et depuis le début, sans l'influence de strictement personne. Ils ont fait leur travail à la régulière, la plus totale. Donc, que cela soit dit. Après, moi, vous savez, j'ai joué ma vie avec ce film et je fais tout ce que je peux pour montrer, pour souffler sur la braise, pour faire exister. Donc, comme chacun sait, qui veut aller à Cannes va voir Pierre Hisson. J'avais eu le bonheur d'être soutenu par Raphaël Clairfond de ce film qui publiait une BD sur Pierre Hisson pendant plusieurs années.
Oui, parce que c'était un conteur extraordinaire, Pierre Hisson, voilà. Avec des histoires dont on ne savait jamais vraiment si elles étaient inventées ou
réelles. D'où Chaplin lui doit tout. Voilà. Et donc j'ai tenté le coup, j'ai demandé à Raphaël, est-ce que tu pourrais proposer, est-ce que tu as moyen de proposer à Pierre Hisson de voir mon film. Un échange de mails plus tard, c'est-à-dire une heure plus tard, Raphaël me rappelle en me disant « Voilà le téléphone de Pierre Hisson, appelle-le. » Je l'appelle, j'attendais votre appel, me dit-il. Quelques jours plus tard, il m'appelle un dimanche matin à 11h me disant « Est-ce que vous pouvez être à 13h dans ma chambre d'hôpital avec votre ordinateur pour me montrer votre film ?» Toute affaire cessante, je file à l'hôpital, oubliant malheureusement le Mister Everywhere que je venais de lire dans son intégralité, c'est-à-dire son livre où j'avais découvert sa vie de sa petite enfance jusqu'à ce jour, bouleversante, que vous avez très bien résumé. Et je lui présente, j'arrive dans sa chambre. Alors, je sais pas le temps que j'ai. La semaine dernière, j'ai raconté l'histoire. Avant qu'il meure, j'ai raconté cette histoire à mes actrices, scénaristes. Pendant 2 heures, elles étaient mortes de rire et bouleversées. Quand il est mort, du coup, elles ont pleuré parce que tout d'un coup, il existait. Je peux vous le faire long, mais je vais pas le faire comme
vous
ça.
Vous faites le coup parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Voilà, oui, donc, bon, pour le faire simple, je lui ai montré le film. Il m'a dit que je lui avais fait découvrir un monde et que c'est à ça que servait le cinéma. Qu'il aimait le film, qu'il croyait absolument pas à la sélection officielle, mais qu'il croyait très fort à la quinzaine et qu'il allait agir sur la quinzaine. Il a fait tout ce qu'il a pu, tout ce qu'il n'a pas pu, mais pour aller vite, alors je l'ai tenu au courant, et après il m'appelait 2 fois par semaine à 7h du matin, il m'engueulait parce que j'avais fait exactement ce qu'il fallait pas faire pour Cannes, etc., etc. Donc c'était bouleversant de se faire engueuler par lui, mais le détail que je veux raconter, c'est son dernier voyage au Mexique pendant 2 semaines, alors que j'avais l'impression qu'il mourait à l'hôpital, pour aller découvrir des films, revenir du Mexique pour défendre des films, engueuler un sélectionneur qu'on avait pris un autre l'année dernière. Et c'est la dernière conversation, ça a été pour lui apprendre la sélection et il m'a dit qu'il était très heureux parce que ça prouvait que le festival était capable de se réinventer et qu'il était heureux d'avoir eu tort de ne pas croire à la sélection officielle.
Merci beaucoup Antoine Desrosières et Mathieu Macheret pour cet hommage à Pierre Hisson. 5 et la peau, son film sera projeté à Cannes lundi prochain à 14h30. Ce sera l'occasion pour le festival de lui rendre hommage. Le film ressort en salle en copie neuve le 30 mai et puis la semaine suivante en Blu-ray et en DVD. Ça sera chez Carlotta Film. Et puis le livre auquel vous faisiez allusion, Antoine Desrosières, Mister Everywhere, entretien avec Samuel Blumenfeld, c'est chez Actes Sud, Institut Lumière. Plan large en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Gilles Gallinaro et Georges Thau et Jean-Guilain Meige à Paris. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large sera à nouveau en direct du Festival de Cannes, tout comme la Grande Table qui, dès lundi, vous fera entendre rien moins que Mads Mikkelsen, Eva Husson et l'excellent ou excellente, allez savoir, cinéaste, couronné du prix France Culture Consécration, un prix remis demain matin ici à Cannes, tout comme le prix France Culture Cinéma des étudiants. Pour savoir qui sont les heureux lauréats, écoutez demain le journal de 12h30, je ne dirai rien. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.